Eh bien, bonsoir tout de suite. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec le musicien Eddy de Pretto.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Monter des murs, porter des masques, égratigner les boucliers, baiser, danser et tout faire tomber pour l'amour. Au printemps dernier, sortait le disque Cure qui introduisait votre visage, vos chansons et votre fête de trop dans les télés, les tubes internet et les radios. Beaucoup de télé, beaucoup d'internet et beaucoup de radio, Eddy de Pretto. Aujourd'hui, l'on affiche en 4 mètres par 3 un jeune homme qui vous ressemble, lassivement installé dans une salle de classe ou de commissariat. En lieu et place de son vrai bras, un cadre montre un biceps maquillé et bodybuildé, tout ça pour célébrer en cet hiver naissant la sortie du disque culte qui comporte quelques morceaux supplémentaires et célébrer aussi une tournée majestueuse de Cure à Culte. Donc bonsoir Eddy de Pretto.
Bonsoir.
Bienvenue. Une tournée majestueuse, ce sont des zéniths en France qui ne sont pas encore complets, un zénith à Paris qui l'est totalement et 10 salles Élysée-Montmartre à Paris où il y aura, vous avez dit juste avant le début de l'émission, une scène centrale et tout ça, tout ça.
Oui, oui, oui. J'avais envie de créer un lien différent avec le public, c'est-à-dire que souvent quand on va en concert, il y a une scène avec juste le quatrième mur qui est ouvert au public et avec qui on a le lien. Et là, je voulais justement créer un peu comme dans mon clip normal que j'ai sorti en début d'année, cet aspect visible de toutes parts, encore moins caché que je ne le serais dans une scène traditionnelle, le plus décousu possible, le plus...
Décousu.
Oui, le plus en lien avec le public, en direct avec le public et toujours... Cette recherche du frontal, du direct, de justement, on parlait de masques et de faire tomber les masques avec le public et de d'être au plus près et ça m'excite beaucoup.
Et alors ce sera quoi donc une scène centrale, le public
ça sera
tout
une
autour.
Scène centrale avec toute cette l'Élysée Montmartre pendant une époque avait été il y a eu des scènes à l'époque mais dès que le Trianon c'est ça qui est à côté a été conçue, ils organisaient des matchs de boxe et de catch et je voulais reprendre un peu je trouvais que cette salle sentait un peu ça avec le parquet, avec toute l'architecture et reprendre un peu ces vieilles activités qui s'y passaient pour en mettre le remettre dans le contexte moderne avec un concert et tout le travail de la construction masculine, de la construction mentale et physique par le sport et par notamment la boxe ou le catch, et la mettre ici au service de mon album.
Et le combat sera sur scène ou sera avec les gens autour ?
Le combat sera avec les gens autour, justement, conquérir les âmes, conquérir les cœurs et par les mots.
Il en reste encore ? Parce que je disais... Beaucoup de tubes internet, bah oui, non mais je me dis c'est une question à poser.
Oui, énormément, je pense.
Y compris parmi ceux qui viennent ou celles qui viennent vous écouter. Il y a venir vous écouter, puis vous pensez que même une fois qu'ils sont là, il faut encore conquérir le cœur.
Ah, totalement, il y a tout à prouver, il y a tout à faire. Il y a des gens qui sont juste curieux, qui ont aimé peut-être, mais qui s'en rappellent plus, et il faut leur rappeler que c'est extraordinaire.
Ou pourquoi peut-être?
Pourquoi?
Leur rappeler pourquoi ils ont aimé.
Et pourquoi ils ont aimé, oui, carrément. Et puis, c'est tout autre chose d'écouter un album à la maison et de l'écouter en sur scène. Et il faut qu'ils vivent différemment sur scène. Ils le vivent par la différenciation sonore. Mais il faut quand même ressentir. Il y a des concerts tout pétés que j'ai déjà vus à droite et à gauche.
Malgré votre amour pour l'artiste, quoi.
Voilà. Totalement. Et j'ai été extrêmement déçu, justement. Et je l'ai plus aimé, j'ai plus écouté l'album. Donc, il y a tout à faire.
Ciao.
Ciao, bye.
L'album commence comme ça.
Tu ne portes jamais de masque. Moi, je crois que j'ai mis un masque et je le porte depuis 20 ans et j'arrive plus à le retirer. Il me colle à la peau.
Et derrière, il y a quoi?
Plutôt devant, il y a toute la mascarade de la vie. Et derrière, il y a un nègre. C'est moi. Merde!
Oui.
C'est chez Gainsbourg qu'on sonne. Et qu'on vient perturber l'entretien. C'est une archive qui date de 1980, diffusée dans les Nuits Magnétiques. Il est au micro de Pascal Dupont. Il dit, ça fait 20 ans que j'ai mis un masque, je sais plus trop comment le retirer. Et derrière, il y a quoi? On lui demande, et il dit, il y a un nègre, j'imagine, qui écrit pour lui. Et devant, il y a quoi? Il y a toute la mascarade. Et c'est vraiment des mots que vous utilisez énormément dans les textes du disque. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, avec tout un champ lexical de la dissimulation, du mensonge, des masques, de l'armure. C'était senti, au moment où vous avez rassemblé les disques, que ce serait très présent, cette idée-là, Eddie De Pretto?
Oui, je crois que c'était lisible dans mon écriture, et à force de voir mes textes, et à force de voir quelle chanson j'allais mettre dans l'album, c'était le sujet principal qui ressortait le plus directement, je sais pas, fatalement, c'était devant mes yeux, et je me suis dit putain, ouais, enfin, même moi j'ai été surpris par l'idée de me dire
je raconte beaucoup, je me cache.
Oui, je raconte beaucoup, comme vous dites, je dissimule énormément, et ça, je crois que ça vient de l'éducation, ou de par le contexte où j'ai grandi, où j'ai toujours aimé, je sais pas. Avec le recul, je pense que j'ai aimé parce que il y avait pas de, je m'y sentais pas mal et il y avait pas de soumission ou de choses de la sorte, mais j'avais cette envie d'être dans une certaine conformité dans les différents groupes où je pouvais évoluer, et j'aimais m'y adapter totalement. Donc peut-être que ça vient de là.
Et ça passait par le fait de éventuellement dissimuler des choses.
Dissimuler pour en montrer d'autres. Je crois que c'est un peu ça la vie, c'est mettre en avant certains aspects de sa personnalité à des moments précis, ouais, et puis les enlever pour les remettre ailleurs. Et là, je pense pas que vous êtes de la même. Enfin, on n'est pas pareil que quand on est au supermarché.
Assurément.
Ouais. Voilà.
Et j'essaye. Alors là, moi, je peux vous dire que la question de l'invention de soi, j'essaye de la jouer tous les jours.
Voilà. Et voilà, et c'est ça que je pense, avec le recul, que j'ai essayé de retranscrire dans l'album.
Et c'est pas un se cacher qui revient donc dans différents morceaux qui serait contre votre liberté. Vous diriez que c'est se cacher pour votre liberté?
C'est intéressant, cette question, ouais. Je pense que c'est pour ma liberté, ouais. Oui, parce que, par exemple, je vais donner une anecdote toute simple. Plus je sortais avec mes amis en bas de chez moi, qui étaient des garçons, et avec qui je pouvais pas parler du fait que je, par exemple, je jouais à la poupée, ou que avec ma voisine on faisait touche pipi, ou que j'aimais écouter les Spice Girls, par exemple, ça me donnait l'impression et la forte sensation que quand j'y étais dans ce contexte-là, avec Spice Girls, ma voisine et tout, j'étais profondément moi-même, beaucoup plus que je ne l'étais dehors dans la rue. Donc ça permettait en tout cas de d'apprendre à mieux me connaître et à être peut-être plus libre dans des endroits où je me sentais plus en sécurité.
Et à séparer des espaces, c'est-à-dire que d'un seul coup, il pouvait y avoir aussi des bulles d'intimité ou de découverte de soi-même.
C'est ça, cette sorte de jardin secret peut-être, où on peut être tout quelque part et être tout ailleurs, et peut-être rien dans un autre endroit, et peut-être... Enfin voilà, cet aspect de... Et je le... C'est drôle, quand j'étais petit, je le réfléchissais pas du tout, je le conscientisais pas du tout, j'étais juste là en train de vivre, et j'avais pas l'impression d'être heureux, malheureux ou soumis, ou en train de mettre des choses de côté, en train de devoir comment m'interdire ou faire attention à ce que j'étais. C'était un peu naturel, je crois, dans ma personnalité.
Et quand vous dites quand j'étais petit, c'était comme ça, ça veut dire que l'écriture de ça arrive plus tard, avec aussi une sorte de prise de conscience?
Ah, totalement. Le recul, je l'ai eu très tardivement. J'ai commencé à écrire vers 18-19 ans, et de manière un peu de manière un peu automatique, ça sortait comme ça.
Il y a un autre masque ou une autre forme de dissimulation qui existe aussi dans ces chansons, Eddie De Pretto, c'est le jeu social. Évidemment, il y a le jeu amoureux, mais on en reparlera parce que c'est un tout petit peu différent, même si c'est pas complètement distinct. Mais il y a tous ces masques qu'on porte pour intégrer des endroits, être accepté dans d'autres, ou éventuellement ne pas perdre la face. Ça, c'est encore autre chose, ou vous diriez que c'est la continuation de ce que vous décrivez là, d'existence d'enfant?
Je crois que c'est du même ordre. C'est juste une. C'est exactement le même jeu pour moi que je reproduis aujourd'hui dans le monde, dans comme dit Gainsbourg, la mascarade sociétale, dans ce qui se passe tout autour de nous. Toujours pour garder la face, je crois. Et j'ai toujours eu le besoin, je crois, et c'est pour ça que j'en suis là, je crois, d'être aimé de tous. Et j'ai toujours eu cette sensation d'avoir envie d'extrême reconnaissance, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, ce jeu-là a été un peu
un moyen coûte que coûte pour
un moyen coûte que coûte d'y arriver. Et c'est comme ancré dans ma personnalité. Les gens qui arrivent à mettre une certaine distance et à être totalement eux-mêmes, et que les gens viennent vers eux, j'ai l'impression, un peu comme des aimants et qu'ils n'ont rien à faire, par une certaine beauté ou un certain charisme ou une facilité d'être ou de soi, m'impressionne énormément.
Mais d'ailleurs, vous le dites dans une chanson. Il y a vraiment quelque chose comme ça que j'ai en souvenir, j'ai pas les mots que vous utilisez exactement en tête, mais vous dites, il y a des choses que j'ai pas. Et, ou en tout cas que vous ne croyez pas avoir, ou que la personne qui parle dans vos chansons croit ne pas avoir, alors du coup vous déployez d'autres choses. Ça veut dire que quand vous regardez le succès, qui est vraiment un succès qui est non... comment on pourrait dire ? On peut pas dire que ça n'a pas de succès, que ces disques n'ont pas de succès, il est non négociable. Vous le regardez aussi à la faveur de l'énergie déployée pour y arriver. Vous vous dites, c'est aussi parce que j'ai bataillé pour ça.
Je crois. Je pense qu'il est rempli de tensions, rempli d'urgence, rempli de tous ces cris, ces envies, ces aussi ces frustrations qui ont découlé sur une certaine niaque. Et je pense il y a beaucoup de ça là-dedans.
Ouais. Mais il y a aussi des gens qui viennent à vous. Il y a un peu des deux quand même.
Oui, mais ça, moi, je les vois pas, ces gens-là.
Bah pourtant, quand on remplit des zéniths en France, il doit y en avoir deux ou trois.
Oui, mais ça m'assouvit pas, bizarrement.
Ok, mais on continue.
On continue.
Je crois que tous mes livres, en même temps, c'est des... Moi, je dirais pas que c'est des règlements de compte, je dirais plutôt que c'est des épreuves comme ça que je tends à mes proches, à ceux que j'aime, à mes personnages, parce qu'en même temps, bon, ces personnages, ils sont là de bout en bout de mes livres. C'est les personnages de ma vie, quoi. C'est des choses que je leur propose aussi, c'est des épreuves qui sont parfois très 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 risquées, très limites, et jusque-là, on a l'impression que ça va faire des dégâts terribles, j'en ai souvent très peur, ils en ont aussi très peur, et puis finalement c'est un maillon qui, je crois, qui consolide aussi l'amitié, la confiance et la tendresse.
C'est une archive d'Hervé Guibert en 1990, un auteur qui a beaucoup écrit à partir de sa vie personnelle, de sa vie intime, sur sa famille, sur ses amants, et qui parle de ses livres comme des épreuves tendues aux gens qu'il aime et aux gens qui l'entourent, et qui dit aussi que ça n'a jamais été sans crainte. Ça n'a jamais été sans crainte de publier des textes, que ça faisait aussi acte de courage de dévoiler ça. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Eddie De Pretto, avec Cure et avec Culte, les deux disques ?
Totalement. C'est fou, vous me parliez de ça, parce que c'est totalement ça. Avant que Kid sorte, je dormais.
Le titre d'un morceau.
Qui est le titre d'un morceau, oui. Je dormais pas la nuit, les quelques jours qui ont précédé. Parce que je savais pas comment ça pouvait être entendu, reçu. Je savais pas quel bruit ça allait faire, comment il allait, être reçu. J'avais très peur du propos qui pour moi, en tout cas, je l'avais jamais entendu. Et j'avais énormément de craintes. Et pareil, là, quand Culte est sorti, une chanson qui s'appelle Grave, je ne dormais pas la nuit de la même façon. J'avais peur qu'on commence à m'épier, des commencements, des aperçus de paranoïa un peu, ouais, Quel est le risque de se raconter totalement, le plus précisément à mon sens possible, aller creuser au plus profond de ses tripes, et quelles sont les retombées de ça aujourd'hui?
Et alors quel est le risque?
Eh ben je sais pas, on verra. Il y en a qui m'envoient des remerciements et qui me disent c'est un acte de bravoure que vous faites là, et il y en a d'autres qui me disent PD, je vais te défoncer ta race.
Et donc le risque se situe là, se situe dans une sorte de parole du public, pas dans ce que disait Hervé Guibert, à savoir, puisque je parle de moi, en grande précision comme ce que vous venez de dire, Edith de Préto, mais aussi de ma famille, de mes proches, des hommes que j'aime, je me suis aussi demandé, dit-il, comment eux allaient le prendre. Est-ce que ça faisait partie de vos craintes?
Moins.
Moins.
Moins. Ouais. Parce que je sais peut-être que mon entourage est à même d'entendre la façon dont j'ai de le raconter, le recul nécessaire face à une chanson par exemple qui s'appelle Ma mère ou qui est assez directe et qui parle clairement de la mienne.
Et qui dit, pour dévoiler deux trois choses, combien une certaine manière de vivre les sentiments et de les étouffer ou de les taire a pu étouffer ou taire les vôtres.
C'est ça, totalement. J'ai dû un peu éduquer, en tout cas prévenir ma mère pour justement la sortie de cette chanson, pour pas la blesser, pour pas maladroitement lui dire les choses qu'elle voulait pas entendre, je pense. Mais en effet, quand je suis devant ma feuille et quand je suis avec mon stylo ou avec mon ordi, j'ai pas peur de comment pourrait recevoir comment les chansons pourraient être reçues par mon entourage.
Aucun appétit de fiction. La question n'est pas là pour vous. Vous ne créez pas des personnages dans ces chansons-là.
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où est la limite de ma vérité, qui est, je pense, la principale matière, et où est un peu la romance, où est le plus la poésie, où est le jeu de se raconter, de se déformer et de se rendre un peu fois mille monstre de ce que je voudrais être ou ce que je ne voudrais jamais être, justement, on ne sait pas.
Et ça, c'est peut-être pas mal.
Et ça, c'est peut-être mieux, même. Et c'est ce que je me tue d'expliquer à ma mère, justement. Que il y a une limite entre ce que j'ai vécu, la base qui a peut-être généré cette envie d'écrire sur ce thème-là, et jusqu'où je vais, et jusqu'où je peux aller dans la folie cérébrale lors de mon écriture.
Parce que ça peut devenir aussi, après le stade de l'expression simple, quelque chose de l'ordre de la création, Edith de Préto. C'est que d'un seul coup, partir d'un terreau de vérité ou de vécu, et ensuite écrire une chanson, vous entrez dans un espace qu'on dit habituellement de liberté.
C'est ça. Et on en fait ce qu'on veut. Et j'aime l'idée d'en faire ce que je veux.
Et est-ce que vous avez senti dans la réception de ces deux disques-là, ou enfin de ce disque augmenté?
Oui.
Cette liberté qu'on vous a laissée. Est-ce qu'on vous a laissé dans les gens qui vous ont écouté, dans les gens qui vous ont interviewé? Est-ce qu'on vous a laissé cette part de flou entre qui vous êtes intimement et ce que vous avez écrit comme chanson? Ou est-ce qu'on a fait en sorte que vous y colliez?
Totalement que j'y colle. Ouais. Parce que je représente pour l'extérieur cette personne-là et y a pas le j'ai l'impression qu'il y a pas le droit au sixième degré ou un certain recul. C'est que c'est ma vie et tout le monde y a cru dur comme fer. Peut-être que c'est ma vie, mais parfois les choses, comme on disait tout à l'heure, sont un peu exagérées, romancées.
C'est marrant. Et vous sauriez dire pourquoi ou pas? C'est des choses qui arrivent très souvent, par exemple, ou qui sont arrivées très souvent pour les rappeurs.
Beaucoup.
C'est des gens à qui on a exigé, qui collent à ce qu'ils disaient.
Beaucoup. Et on n'accepte aucune posture, ou second rôle, ou personnage, c'est vrai. Je sais pas du tout. Peut-être parce qu'on utilise le jeu, parce qu'il y a un sentiment d'autobiographie totale, avec une certaine hargne des mots, peut-être une accentuation sur le sens, sur cet aspect de parler avec les tripes, je sais pas.
dans de fausses fourrures, des cigarettes sur les lèvres, en léchant nos blessures pour faire partie de nos rêves. Seul, on est bien moins fort, on est même plus beau, et on finit dehors à ne plus jamais boire d'eau. Les hurles fait semblant d'être belle, fait semblant d'être fou. Tes baisers qui m'entraînent dans les fêtes. Des doigts posés sur nos bouches, on n'en a rien à foutre tant que c'est nous que l'on touche. Sale, on est bien plus grand que tous nos poèmes qui, en nous dépassant, nous renvoient à ce que l'on aime. Mais fait semblant d'être belle, fait semblant d'être fou. Tes baisers qui m'entraînent dans les fêtes, rude Moscou. Dans des emprunter des peaux qu'on ne connaît pas, on regarde notre reflet et on s'en lèche les doigts. Fou de tant de désirs, mais quand on en revient, qu'il est l'heure de partir, on se rend compte.
Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Eddie Depréteau.
Rue de Moscou, qui existe donc sur les deux versions, à la fois cure et culte, Eddie Depréteau, de votre disque. Si on essaye de regarder les... à chaque fois qu'une forme de géographie est appelée, il y a Rue de Moscou, il y a Beaulieu, il y a Quartier des Lunes. Et alors, elle est où cette rue de Moscou dans votre imaginaire? C'est la rue de quoi?
Pour moi, c'est la rue de tous les possibles, justement. C'est la rue de l'endroit où la fête est, où toutes les libertés sont envisageables, où on peut être qui on veut, où on peut faire semblant de tout, faire semblant de nous, tout ça.
Ce qui n'est pas le cas de Beaulieu, par exemple.
Beaucoup moins. Rue Moscou, elle amène au rêve, elle amène à l'idéal, à l'utopie, elle amène à jouer de nous, jouer de tout, c'est ce truc. Beaulieu, c'est plus ancré, plus réel, plus dur, plus appuyé, plus terrain, plus... Tu vois, il y a ce truc un peu plus... Oui, plus comment dire, rocailleux quoi. Il y a un truc où c'est l'ADN, c'est de là où je viens, c'est un contexte qui a été un peu anxiogène, où j'ai voulu justement tenter d'aller à la rue de Moscou le plus rapidement possible, et où malheureusement il y avait énormément de choses qui m'en empêchaient.
Et pourtant, Beaulieu, cette chanson-là, elle est très ambivalente. Elle ne dit pas que j'y suis enfermée, j'y suis mal.
Pas
c'est
du
vraiment
tout.
Une chanson aussi d'amour.
Totalement. Mais c'est justement ce paradoxe entre la fine ligne entre justement ce qu'on aime absolument et ce qu'on déteste tout autant. C'est cette idée de je t'aime moi non plus. C'est ce truc de... Ça m'a tellement apporté par, enfin, je regrette pas du tout, enfin, je regrette, j'y peux rien, quoi, je suis né là,
C'est-à-dire en banlieue parisienne, dans les
voilà,
grands ensembles.
En banlieue parisienne, dans les grands ensembles, je regrette en rien, c'est que ça m'a apporté énormément de choses, et comme ça m'a apporté aussi ce sentiment un peu castrateur mais qui m'a créé aussi cette envie folle, ce bouillon en moi d'aller à Paris pour réaliser mes rêves. Enfin, il y avait cette volonté-là. Et je pense que sans... Enfin, ça, je sais pas, mais sans ça, sans cela, sans...
Sans cette, Beaulieu, pas de rue de Moscou.
Sans Beaulieu, pas de rue de Moscou, voilà. Donc, toutes ces soirées à rêver ou à pleurer à Créteil m'ont amené à avoir et à déboucher sur une certaine niaque, une envie folle de réussir ce que j'avais envie de mener.
Et en même temps, sans manque de lucidité sur la fête de trop, c'est-à-dire bien sûr rue de Moscou, bien sûr le monde des possibles, bien sûr le costume que l'on veut porter, le regard que l'on veut porter sur le monde et la gueule de bois.
Et la gueule de bois et la redescente, oui, c'est ça, oui, c'est cette surmélancolie, c'est quand on est à bout de force, bout d'émotion, qu'on n'a plus rien à mettre de mots nulle part où classer ça. Il y a cette ultra mélancolie, cette fatigue mentale, physique qui retombe et
ça a été l'une des essences d'écriture de ce disque-là, Eddie De Pretto, l'ultra mélancolie.
Je crois, ouais. En tout cas, cette extrême solitude. Après, je suis très mauvais pour identifier, pour analyser mon écriture. Je sais pas du tout écrire. Je déteste écrire. C'est quelque chose que quand j'y suis face, me pèse beaucoup, m'angoisse beaucoup. Donc, je pourrais pas dire comment j'ai écrit cet album. Pour moi, c'est un peu la magie.
Ou dans quel état,
mais j'arrive, c'est des moments tellement éparses, tellement tout est montage, tout est décousu, j'ai pas une méthode, je pourrais même pas vous dire comment...
Voilà. Ça peut être quoi, une phrase notée sur un téléphone portable,
voilà.
Un bout de papier, plein l'ordinateur
de phrases,
ouvert à la
l'ordinateur
maison.
L'ordinateur ouvert, un moment où par magie ça va couler et faut surtout pas que j'y mette de conscience.
Pour quelle chanson par exemple ça s'est présenté comme ça?
Ça a coulé, normal. Une chanson qui... j'ai pas eu d'état d'âme. Rien n'est venu me juger. Personne n'est venu me juger dans l'écriture. Et c'est coulé, ça a coulé.
Bah normal, moi, c'est une chanson qui m'a fait penser à ça.
Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade.
Pur hasard, Edith de Préto, que j'ai pensé à cette chanson ou pas?
J'ai béni dans cette chanson.
Ah ouais,
ouais,
d'accord.
Ouais. Ma mère écoutait ça à fond, elle chantait par-dessus.
Parce que j'avoue que c'est même pas venu tout de suite. Et puis j'entendais, je suis complètement normale, complètement banale, je suis complètement normale, je suis con, tellement malade. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bien sûr, Serge Lama, en fait.
Mais c'est du Serge Lama, en
non,
fait.
Non, non, je me suis dit, bien sûr, oui. Regard vers ça.
Ouais.
Regard vers ça aussi, quand même. Pas que, bien sûr.
Pas que, oui. En tout cas, c'était pas volontaire, mais en tout cas, cette chanson est un monument pour moi, et elle a fait partie totalement de l'univers musical dans lequel je baignais avec ma mère.
Parce qu'on a beaucoup dit Brel, Barbara, en parlant de votre travail. Et moi, je me suis dit, mais peut-être même un cran encore plus large du côté de la chanson populaire. C'est-à-dire, oui. Tout à l'heure, vous disiez, Edith de Préto, moi, ça fait très longtemps que je veux être aimée par beaucoup de monde. Et en fait, je trouve que dans la musique que vous faites, ça s'entend parce qu'il y a l'idée de faire des chansons populaires au bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment qui vont pouvoir être entonnées, quoi.
Ouais, oui.
Non mais je veux dire, ça fait partie de votre désir de faire de la musique.
Oui,
de faire
crois.
Vraiment
en
la
cas,
chanson qu'on
crois.
Va entendre à la radio, quoi.
Alors non, j'aurais pas écrit. Alors peut-être dans la mélodie, oui. Après, dans le texte, je pensais vraiment pas que Fête de Trop et Kid passerait sur Énergie, vraiment.
Parce que vous pensiez les oreilles contemporaines plus prudes.
Je crois, en tout cas, en radio populaire très mainstream. Oui, je croyais que je m'interdisais, en tout cas, ce créneau-là par le texte, totalement.
Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs que ça ait marché? Par exemple, si Énergie diffuse une chanson comme Kid, qui parle de la construction sociale de la virilité, de la manière dont on impose aux petits garçons, aux jeunes garçons, de se tenir à une certaine norme masculine, ils y vont. Énergie, ils y vont. C'est quoi?
Je sais pas.
Ils ont bien écouté pourtant.
Ouais. Écoute, c'est un peu la magie du projet, je crois. Et aussi l'envie de peut-être de. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois.
En tout cas, vous pensiez pas que c'était possible.
Non, je pensais pas que c'était possible avec un sujet comme ça, avec et en plus je le porte un peu de manière premier degré, lourde. Il y a quand même une
viscérale en tout cas.
Voilà, c'est viscéral, c'est dense, c'est ancré, c'est comment dire, oui voilà, viscéral, c'est exactement ça le mot. Et non, pourquoi? Alors, je me demande toujours si, pour différentes raisons, parce que c'est aussi un phénomène sur lequel on parle de plus en plus. Est-ce que aussi parce que c'est novateur, ou est-ce que parce que le fait que de l'homosexualité, qui n'a rien à voir pour moi en tout cas avec cette chanson, mais ce sens un peu revendicatif en tout cas de montrer un peu le panel aujourd'hui des Français, je sais pas. Et aussi peut-être pourquoi pas juste la mélodie, ou la magie de la chanson. Vous savez, moi ça m'a dépassé vraiment. Je pensais pas, j'imaginais, je fantasmais ça depuis petit, j'avais envie, comme vous vous dites, de cette extrême reconnaissance, mais on le visualise pas exactement. Quand on a un rêve, on se dit pas alors il sera sur énergie à 18h16 et que ça va me faire plaisir et je passerai au Zénith de Rouen le 22. On voit pas ça. Et c'est quand on le vit, quand on est en train d'être dedans, qu'on est surpris en fait des proportions que ça prend, dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
Je crois que je suis un chanteur, un artiste, et que je ne suis pas devenu un homme politique, mais simplement un homme tout court. Ça veut dire que, avec l'âge, eh bien, on finit par s'assumer. Peut-être aussi avec un peu la réussite, ça aide beaucoup, surtout quand on est timide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je crois que le fait de chanter sur scène, le fait de chanter à la télé, le fait de faire de plus en plus d'interviews, est un système qui permet de se sortir de ses complexes. Et quand on a des sentiments d'homme qui s'affirment, eh bien... On a de moins en moins de mal à les exprimer, même des fois on est un peu trop expansif, ça m'arrive aussi, mais ça m'arrive rarement de regretter, jusqu'à présent en tout cas ça m'est jamais arrivé, je préfère être expansif, trop expansif et sincère que de mesurer sans arrêt mes paroles. Ce que je remarque c'est que malheureusement, j'en suis l'exemple aussi, puisque le fait de chanter de réussir est aussi une petite forme de pouvoir, bien minime contrairement à ce que certains croient, mais c'est quand même une petite forme de pouvoir, le pouvoir transforme les gens. Et selon qu'ils ont une ambition saine ou une ambition malsaine, évidemment, les résultats politiques concrets ont des conséquences différentes sur les gens et sur les peuples.
Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu si tu veux. Ce n'est pas grave si tu ne te réveilles pas tout seul. Si à côté de toi c'est un gars et que t'as la larme à l'œil. Ce n'est pas grave si tu te pensais beaucoup trop jeune pour que ce sodome te la mette gentiment et sans battle. Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves trop poli. Qui te touche, qui t'adore, tout pas avec ta petite copine. Ce n'est pas grave si encore ce matin au réveil tu te lèves d'une goule mais il manque le de Gaël. Ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa. Ce n'est pas grave si tu t'entêtes à dire que c'était juste comme ça. Ce n'est pas grave si tu bugs quand tes potos se montent s'en bas. Ce n'est pas grave si t'as chaud et si ça devient à chaque fois. Sans le vivre, ben ça c'est grave. Et ça c'est pire que rester à mentir dans le soir quand ce n'est pas grave si avant tu disais que c'était sordide, c'était que dans les télé-réalités que c'était possible. Ce n'est pas grave si maintenant c'est devenu ton réel qui te revient à la gueule alors que t'approches la quarantaine. Ce n'est pas grave si t'as glissé sur le porno d'à côté. Ce n'est pas grave si tu te dis que c'était sans faire exprès. Ce n'est pas grave si une bite apparaît sur tous les onglets. Ce n'est vraiment pas grave et même si tu commences à bander. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te fier sur ce buzz, tu veux. Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin. Plus que des mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien. Ce n'est pas grave si tu l'appelles mon petit lapin et tu effleures son petit machin qui corrèle bien avec le tien. Ce n'est pas grave si tu sens des envies passagères qui te restent dans la tête plus fort que ce que t'as serré hier. Ce n'est pas grave si tu stresses quant à la manière dont tu vas dire à ta mif tu t'intéresses à des derrières. Ce n'est pas grave si tu penses à sauter ton meilleur ami. Ce n'est pas grave si tu t'avoues que Sabrina n'est plus jolie. Ce n'est pas grave si tu regrettes les deux doigts que tu t'es mis. Ce n'est vraiment pas très grave si tu restes focus sur Jimmy.
Sans le vivre, ben ça c'est grave. Et ça c'est pire que rester à mentir dans le soir quand ce n'est pas
grave si tu rougis fort dans les vestiaires car tu te sens devenir tout dur devant le leurre qui est à l'air. Ce n'est pas grave si tu préfères la jouer solitaire pour toucher dans la cabine une fois pour toutes te la faire taire. Ce n'est pas grave si ta toute première fois était trop sombre. Ce n'est pas grave si ta seconde fois mis à jour ta pardon. Ce n'est pas grave si ton énième fois n'est toujours pas féconde. Ce n'est vraiment pas grave même si on t'insulte sur ta tombe. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu si tu veux.
Sans vie,
comme ça, Edith de Préto qui figure sur Culte, ce disque augmenté après la sortie de Cure au printemps dernier. Et juste avant, on entendait une archive de Daniel Balavoine en 1983 dire comment il vivait le succès, avec une grande lucidité sur le petit pouvoir à la fois que ça offre, mais aussi sur la manière de gagner du terrain, sur sa timidité, sur ses complexes, sur une manière d'être soi. Comment est-ce que vous l'entendez, cette archive? Est-ce que vous le rejoignez, par exemple, sur timidité et petit pouvoir, pour prendre deux des thèmes qu'il aborde?
Moi, je pensais que... C'est drôle, je pensais que je vivrais autrement. Comment dire, ce mini-succès qui est pour moi un truc de passage et justement, il y a tout à prouver. Je pensais que, justement, ça me ferait gagner en confiance, m'enlèverait une certaine timidité, pallierait quelques... petit souci personnel. Et en fait, pas du tout. Voilà.
Ça, c'est pour la timidité. Et pour la question du petit pouvoir que ça donne, quand même, est-ce que ça en donne?
Du petit
et
pouvoir envers soi ou envers le monde?
Bah, je sais pas, un peu des deux. Par exemple, envers soi, vous avez l'air de dire pas tellement.
Non, pas tellement.
Envers le monde, en termes de prise de décision, de choix, de... Ça peut en donner.
Oui. J'ai l'impression, en tout cas, que... en tout cas, il y a une extrême. J'ai beaucoup de messages qui me remercient beaucoup de prendre cette parole-là. Par exemple, comme une chanson comme Grave qu'on vient d'écouter. Que ça fait avancer certaines personnes, comprendre l'inconnu, ouvrir la vision de certains qui ne mesuraient pas du tout Je sais pas.
Je me suis dit peut-être, en entendant cette archive de Balavoine, je me suis dit peut-être que une des conséquences du succès pour vous, Edith de Préto, c'est cette chanson-là. D'un seul coup, plus seulement parler de votre expérience ou de ce qu'on a dit tout à l'heure, votre expérience augmentée, mais vous adresser à d'autres. Et cette chanson qu'on vient d'écouter, elle est comme une sorte de conseil, de baume, de regard de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui dit ça va aller en fait.
Oui, non, oui. Alors, elle peut être lue comme ça, mais pour moi, elle a été vraiment écrite. Dans les rancœurs et les frustrations que j'ai reçues vis-à-vis de ça, de pouvoir pas forcément le vivre comme je voulais le vivre, ou en tout cas le dissimuler, ne pas l'assumer, et ce truc de courage un peu de mais je m'en bats là, et je vais le vivre totalement, et j'ai besoin de cette force et de ça et de serrer les dents et de...
Donc en fait, elle est encore adressée à vous-même.
Oui, totalement.
Mais elle a le possible double usage de pouvoir être adressée à des peut-être plus jeunes garçons, des plus jeunes filles qui vivent leur homosexualité avec de gros soucis, de la grande souffrance.
Ça tant mieux. Et c'est là où le petit pouvoir est exercé, je crois. C'est quand on peut s'identifier totalement à une chanson et se dire putain, c'est ma vie et ça me fait avancer. En fait, c'est pas grave. Il y a une sorte de déculpabilisation de pouvoir se vivre totalement, et tant mieux si ça fait du bien à certains, et tant mieux si ça gêne d'autres personnes, et tant mieux si ça peut-être ouvre d'autres consciences. Voilà, en tout cas, j'aime l'idée que ça puisse venir un peu susciter l'intérêt ou le dérangement.
Et ça continue de vous faire du bien, par exemple, d'écrire ce genre de chanson, ça continue d'agir contre la culpabilité.
Totalement. Totalement. Et ça m'aide à avancer, je crois.
Et il y a d'autres chansons, il y a d'autres textes, il y a des choses dans l'art qui ont joué ce rôle-là pour vous, avant que vous ne puissiez être en mesure d'écrire vos propres chansons pour le faire.
Dolan, moi, m'a beaucoup permis ça.
Xavier Dolan,
ouais. M'a permis de me dire... je suis gay alors, par exemple, ouais, beaucoup, parce qu'il assumait totalement qui il était, ses rôles aussi, et il y avait comme une extrême liberté, une comme vous dites, une sorte de baume, un truc de good movie un peu, alors que ça ne l'est pas, mais il y a un truc un peu rassurant là-dedans, c'est que ces gens vivent très bien, en tout cas de ce qu'on voit dans les films. Et il n'y a pas de souci.
Encore faut-il y avoir accès. Comment est-ce que vous accédez à Xavier Dolan?
C'est ma mère qui frappe un jour à la porte de ma chambre. Je sais plus quel âge elle frappe, elle fait « T'as vu, il y a un film, j'ai tué ma mère » ou comme
Et quel film ?
Et quel film qu'il faut aller voir, je crois que c'est un peu notre histoire. Et je fais « Ouais, ouais », enfin, comme d'habitude, « Ouais, ouais, lâche-moi ». Et en fait, je crois que je suis allé voir ce film seul et j'ai été attrapé.
Ah ouais.
Et voilà. Et puis c'était ma vie, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré.
Et au-delà de Xavier Dolan, est-ce qu'il y a de la musique ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont comme ça contribué à ce qu'un jour vous puissiez prendre la liberté de vous dire comme vous êtes et le dire à beaucoup de gens ?
C'est drôle ça. Moi, j'évolue un peu avec mes amis dans le monde un peu outsider underground parisien. Donc où la techno est très 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 en avant et beaucoup il y a beaucoup de sessions ou de d'artistes comme ça très très issus de la sous-culture de Berlin, de Londres ou de Paris qui viennent s'exprimer un peu dans des endroits un peu sombres vers 3h du matin
et qui s'expriment musicalement ou qui
musicalement
prennent la parole.
Non, qui s'expriment musicalement ou en danse ou par le corps, le mouvement, la danse, peu importe l'art, mais en tout cas ils montent sur une scène ou un espace où on est où on doit les regarder en tout cas et j'ai vu beaucoup de gens expérimenter énormément de choses, s'assumer totalement comme ils étaient, et totalement de manière non convenue et non traditionnelle de ce qu'on peut voir dans la rue. Et ça m'a donné une extrême tolérance et une sorte de vivre ensemble total. C'est-à-dire que ici, on peut tout se permettre et on est même applaudi.
Et c'est un empouvoirment qui va aussi jusque le en dehors d'ici, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu dans un club à Paris, sombre comme vous dites à 3h du matin, quelqu'un qui vous donne, parce qu'en effet c'est très émancipateur de voir quelqu'un être parfaitement lui-même ou elle-même ou que sais-je devant soi et se faire applaudir, mais est-ce que ça se transpose dans le monde social du 10h du matin rue Banale ?
Eh ben, je me suis toujours posé ces questions.
Ben, je vous la pose, ça tombe bien.
Que deviennent ces gens à 10h du matin ?
Ou que devient le pouvoir qu'ils nous ont transmis en faisant ce qu'ils faisaient ?
Ah bah moi, il devient libérateur et j'ai envie de me retrouver face à des textes et face à une liberté émancipatrice de pouvoir écrire, de pouvoir chanter ce que je veux sans censure, sans barrière. Et je me dis, j'ai laissé derrière moi beaucoup plus exubérant, beaucoup plus fou. À côté, je fais de la popote mainstream, quoi. Voilà.
J'ai autorisation totale.
Et j'ai autorisation totale.
Je repense vite fait à Serge Lama, parce que pourquoi ne pas le faire ? Il y avait dans cette chanson « Je suis malade » l'idée d'un crescendo qui termine sur un cri, aussi d'une musique construite comme ça. Et dans vos chansons, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, à la fois musicalement et à la fois dans la prise de parole. Ça correspond à l'état, ça correspond à un certain état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui ?
C'est-à-dire ?
Ça monte.
Ça... Et ça redescend.
Et ça.
oui, je crois. En ce moment là, je suis assez apaisé en ce moment, donc il y a moins ce je sais pas trop. Il y a cet aspect un peu mise en place dans certains contextes au début de manière un peu calme, et après ça monte en tension, ça s'énerve, ça les mots s'accélèrent, les mots deviennent plus denses, les mots se poussent, les mots se cherchent, et j'avais cet aspect de montrer une certaine colère ou une certaine folie ou une certaine envie d'en découdre, envie d'en finir, envie de tout exploser comme ça. Et c'est vrai que c'est un format et une construction de chansons qui se fait beaucoup chez moi, en deux parties souvent.
Les mauvaises langues disent que les culturistes ont des gros muscles mais des cervelles d'oiseaux.
Quand on fait du sport, on va pas à l'école. Donc si quelqu'un commence la culture physique qui a une cervelle d'oiseau, il reste une cervelle d'oiseau. Mais si un ingénieur ou bien un docteur, etc., fait la culture physique, sa cervelle ne change pas. Hein.
Vous soulevez combien de poids dans une journée ?
Ouf ! Environ
60 à 80 tonnes par jour.
C'est beaucoup?
Ça fait 10 camions de 10 tonnes.
Les gens disent que beaucoup de culturistes sont homosexuels.
Vous savez, il y a des homosexuels partout. Il y en a dans les artistes, il y en a à l'usine Renault, il y en a partout. Bon, vous savez, il y a du narcissisme un peu partout. Le fait d'aller acheter une belle cravate, une belle paire de chaussures, ou d'aller chez un tailleur, demander qu'il élargisse les épaules un peu plus suivant la mode, c'est du narcissisme aussi. Donc, ces gens qui vont chez un bon tailleur et font du narcissisme avec son argent, tandis que nous, on le fait avec la sueur.
Il est sage, cet homme. On est en 1977 et c'est un reportage qui s'appelle « Les rois de la gonflette ». Et peut-être juste pour une référence, j'allais dire avec le sourire, mais pas forcément, Eddie De Pretto, pour que vous nous parliez de cette affiche où vous êtes en effet installé sur une chaise dans une position relâchée, on va dire.
Et décontracte.
Décontracte. Mais je me suis dit, est-ce que c'est une salle de permanence au lycée ou est-ce que c'est une salle d'attente au commissariat?
On ne sait pas.
En tout cas, à la place d'un des bras... Un gros biceps maquillé et bodybuildé.
Oui. Oui. Il faut que je réagisse.
Je sais pas, ouais.
Ouais, réagisse. Alors, écoutez, sur le premier album, sans la réédition, c'était un téléphone. Et justement, il y avait cet aspect très premier degré de l'autobiographie. Enfin, premier degré, je sais pas, mais en tout cas, cette manière de se voir, de se prendre en photo, de s'analyser totalement et de se mettre une certaine mise en abîme de soi totale.
Et pour sur la première pochette, voilà, on vous voit avec le téléphone portable.
C'est moi qui me prends en photo. Et du coup, sur la réédition qui s'appelle Culte, j'avais envie de mettre un certain relâchement, une certaine un aspect un peu plus satirique, un peu quelque chose qui vienne un peu dégommer le téléphone portable pour le remplacer par tout justement ce que j'avais travaillé dans le premier album, c'est-à-dire la construction physique de l'homme par le corps ou par le mental, comment on est éduqué, le genre de comment il faut être un garçon aujourd'hui en 2018. J'avais beaucoup traité ces sujets-là en tout cas. Et je trouvais ça drôle, voilà. C'est juste une histoire rigolote de justement le remplacer par un bras très musclé, très construit, qui était joint à moi par un vulgaire montage.
Est-ce que ça veut dire que c'est juste une histoire de vulgaire montage ou que quand même vous avez gagné en force, au moins
oui,
du bras gauche?
Il y a cet aspect un peu de cet aspect un peu rentre dedans. En fait, ce qui m'amusait, c'était qu'il y avait un double sens à Culte, c'était qu'il y avait cet aspect un peu rentre dedans en mode j'ai fait un album un putain d'album qui a
et
été
a avant,
voilà, qui a marché à 200K, donc j'étais, il y a, c'était un peu cette exposition sur de soi, ego trip, tiens voilà, je t'ai niqué, et aussi cet aspect un peu plus doux de culte du corps, de construction justement que je tends à être, que je veux être, je crois, et que je suis menu et enfin voilà, cette recherche là.
On a assez peu parlé d'amour, Eddie De Pretto.
Oh non, je parle pas d'amour.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. On a assez peu parlé d'amour. Pourtant, moi, je trouve que ça tourne autour quand même.
Bah ouais.
Ouais, qu'il est pas loin, quoi.
On n'y arrive pas encore.
Ouais, c'est ça. Vous dites surtout, fais pas le pas de plus.
Ouais, c'est ça.
Il y a une chanson qui dit ça. C'est pas un pas de plus parce que sinon quoi? Sinon, vraiment, le mur s'écroule.
Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Ça c'est ouais. Encore une, oui, une construction, un truc qui me rassure beaucoup, je crois. C'est cet aspect insurmontable.
Pas de love.
Pas de love et surtout la croyance de pouvoir tout gérer émotionnellement et physiquement.
Et la lucidité de dire que en fait c'est faux. Enfin, je veux dire, Jimmy, un titre comme Jimmy,
oui,
dit que c'est faux, que les
totalement
murs ne sont pas du tout.
Totalement. Mais là où je me le permets, c'est justement uniquement dans la chanson. Et peu, je me laisse peu surmonter et je joue toujours cet aspect de différents masques justement qui me protègent énormément.
Mais ça se trouve, il y aura un deuxième album, vrai deuxième album, complètement love album.
Peut-être.
Who knows?
Who knows? Mais je pense pas.
Ah oui?
Non. Non, non.
Troisième?
Peut-être, on verra. Je sais pas si je ferai encore des albums au troisième.
Bon, on vous le souhaite si c'est ça que vous avez envie de faire en tout cas. Merci beaucoup, Eddie De Pretto. Donc on peut avoir Culte ou Cure, mais bon, Culte, il y en a plus.
Bah oui.
C'est le dernier qui est sorti. Oui. Et puis on peut venir vous écouter dans tous les Zéniths de France, mais pas à Paris car c'est complet. Et au mois de mai, durant 10 dates à Paris, dans la salle de l'Élysée-Montmartre, avec, on l'a dit tout à l'heure, la scène centrale et tout ça, tout ça.
Tout ça, tout ça.
1, 2.
I'm crossing you in style.
Someday, day, watch my heart breaker. Wherever you're going, I'm going that way. Two drifters off to see the world. There's such a crazy world to see. We're all chasing after us, hey. Chasing after us.
Voilà, donc c'est pas encore Noël, mais c'est déjà Noël, parce que c'est ce Moon River de Frank Ocean qui nous sert de générique au son ce soir. C'était Philippe Thibault à la réalisation, Charlotte Roux. Demain à 21h, on se retrouve pour parler temps qui court, quand vous voulez, sur franceculture.fr, sur les réseaux sociaux et aussi en podcast. Un très grand merci à Lou Quevauvillier, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chasseur qui m'aident à penser et préparer cette émission. Très belle soirée sur France Culture.
Off to see the world. It's such a crazy world. You'll see.